au café de la mort.
Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide. Le mot seul jette un froid aussitôt qu'il est dit.
Avec Christian Hervault et Jean-Paul Souzède.
La mort. La mort.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, merci d'être encore avec nous pour cet épisode nouveau et un peu différent de d'habitude, dans le cadre de Au Café de la Mort, toujours avec Jean-Paul Souzède, mon fidèle compagnon.
Bonjour.
Mais aujourd'hui nous avons en plus la joie d'avoir une invitée en la personne de Hélène Deron.
Bonjour.
Bonjour Hélène,
bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Aujourd'hui, nous allons aborder la question des soins palliatifs. Alors, nous avions besoin de quelqu'un de chevronné en la matière. Et donc, je dis deux ou trois mots de vous quand même, parce que beaucoup de personnes vous connaissent, mais dans d'autres domaines aussi, puisque vous êtes docteur en lettres, historienne de l'art. Vous faites partie de l'Académie de Nîmes et puis vous écrivez des livres, un peu comme Jean-Paul Souzède, mais pas sur le même thème. Et puis vous êtes présidente honoraire de cette association ASP 30 qui est née en 1992 grâce à vous, mais qui a pris un nouveau nom, Être là, ASP 30. Et donc peut-être faudrait savoir ce que ça veut dire ASP.
Association Soins Palliatifs,
voilà.
Tout simplement.
Tout simplement. Donc, on s'y retrouve bien. Donc, peut-être vous pouvez nous dire deux ou trois mots sur cette association. Vous l'avez créée à partir de quoi?
À partir de rien.
À partir de rien.
Rien n'existait.
À partir d'un questionnement. À partir
réalité de vie. D'une voilà. réalité de vie qui m'a fait réfléchir sur l'accompagnement des personnes, justement, en fin de vie. Et je me suis rendu compte que dans le Gard, où nous sommes depuis 35 ans avec mon époux, il n'y avait pas vraiment de la notion soins palliatifs développée, et en tous les cas, pas de bénévoles accompagnants en soins palliatifs. Donc j'ai pensé qu'il serait opportun de créer cette association, c'est ce que j'ai fait après avoir rencontré de nombreux médecins du CHU de Nîmes et des médecins généralistes et qui m'ont dit, ben oui, allez-y. Donc j'ai créé et 34 ans après, il y a toujours autant de monde et toujours autant de nécessités.
Oui, oui, oui. Ça se développe en plus, on veut développer ces
soins palliatifs. Oui, alors oui, il y a une loi, là, cette loi a été votée, le développement des soins palliatifs en France, voilà, et c'est bien, et c'est fort, et ça répond à une demande.
Alors, nous avons parlé des soins palliatifs, parce que nous ne sommes pas très chevronnés, Jean-Paul et moi. Nous nous sommes aperçus que nous avions des manques.
Oui, alors, tout le monde en a, hein.
tout simplement, on voudrait savoir qu'est-ce que c'est. C'est quoi les soins palliatifs? Quelle définition on pourrait donner?
On va pallier à quoi?
Oui, on va pallier, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien à faire, tout reste encore à faire. Ça veut dire que lorsqu'il n'y a plus d'espérance de guérison, par le truchement d'un traitement, les soignants mettent en place les soins palliatifs. Ce sont des soins globaux qui prennent la personne dans sa généralité et des soins dits de confort. Alors les soins, déjà c'est la définition même. Hein. Détaillons cette définition. Les soins palliatifs ont pour objectif de soulager la douleur. La douleur n'est pas bonne, hein. Au contraire, elle affaiblit, elle angoisse. Donc, les soins palliatifs, c'est vraiment le premier objectif, soulager la douleur. Et également, soulager les autres symptômes qui naissent de cette douleur. Et apporter, ce que je vous ai dit, les soins de confort avec des aides aussi d'écoute et de psychologie. Alors, les soins de confort, en quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste en des massages, en nettoyage de la bouche, en essayant de concevoir, de proposer une nourriture appropriée et en mettant à côté du malade et de la famille du malade des aides d'écoute, des aides psychologiques. Donc, les soins palliatifs, c'est vraiment pour... Le but, c'est en aucun cas provoquer intentionnellement la mort, au contraire, accompagner la personne en fin de vie le plus longtemps possible dans son processus de vie et en s'efforçant de préserver la meilleure qualité de vie.
Très bien, merci. C'est vraiment donc dans tout ce qu'il y a d'humain et de relations humaines.
Oui, nous sommes dans la connaissance scientifique, hein, médicale, mais également nous sommes dans l'humain.
Alors, vous venez de dire que donc, le malade est en fin de vie.
Oui.
Est-ce que c'est parce que le médecin ou les médecins ont compris qu'il n'y avait pas de possibilité
de guérison.
De guérison. Et donc, c'est le médecin qui décide.
Oui, alors, tout à fait.
Qui décide quoi et comment, voilà.
tout ça, ce sont de très bonnes questions. Alors, il y a plusieurs cas médicaux, hein, bien sûr. Mais nous allons parler du cas le plus, malheureusement, le plus courant, c'est le cas du cancer. Vous savez qu'un cancer se soigne, un cancer se guérit, mais parfois non, il ne se guérit pas. Pour différentes raisons, mais ça, ce n'est pas ici. D'abord, je ne suis pas médecin et je ne vais pas les analyser, ces raisons. Par contre, le médecin va faire un certain nombre d'examens tout au cours de la maladie, hein, et de la thérapeutique qui donne, enfin des traitements lourds souvent, qui accompagnent cette maladie en vue de la guérison. Et ces examens, ces prises de sang, etc., démontrent que malheureusement, la médecine a perdu. C'est-à-dire que la maladie est plus forte que la guérison. Donc le médecin va réunir son staff, ses internes ou d'autres amis, enfin d'autres personnes du monde médical, comme des infirmières de son service, et ils vont réfléchir. Et en fonction de ces résultats, ils se disent, ben oui, il n'y a plus rien à faire. Donc, deux solutions. Soit le médecin, et c'est la meilleure, et c'est la plus courante, rencontre le patient et la famille du patient pour leur dire, voilà où nous en sommes. Est-ce que vous voulez que nous arrêtions ? Il est bon d'arrêter toute thérapeutique, arrêtons les médicaments. Ou alors, est-ce que vous voulez qu'on les poursuive ? Donc là, le patient est au cœur de la décision, devrait être au cœur de la décision, ou la famille du patient également. Alors, de plus en plus, et ça j'insiste, nous encourageons tout être humain à signer les directives anticipées. Et dans ces directives anticipées, on les signe, on les écrit alors qu'on est en pleine forme. Hein, on n'attend pas la dernière minute pour les écrire. Et on les écrit en disant bien, je refuse l'acharnement thérapeutique. Parce qu'à partir du moment où le médecin considère qu'il n'y a malheureusement plus rien à faire, on rentre dans l'acharnement thérapeutique si on poursuit les soins. Donc le malade dit non, vous arrêtez tout. Hein, en règle générale.
Laissez-moi mourir en paix.
Voilà, laissez-moi mourir en paix. Oui, oui, c'est ça. Alors, le mot mourir est peu prononcé, oui. Hein, il fait peur. Mais laissez-moi finir tranquillement. Hein, oui. Voilà, c'est ça, c'est la même chose. Mmh. Voilà. C'est à ce moment-là que la décision est prise. La décision est prise par le corps médical, par le patient et la famille du patient. Si le patient n'est pas en état vraiment de prendre sa décision.
Donc, à ce moment-là, se met en place ces soins, voilà, particuliers.
Ah, oui, se met en place cette nouvelle médecine qui est la médecine palliative. Avec ce que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la prise en charge du malade dans sa globalité. On ne va plus simplement soigner le cancer. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire avec ça. Donc, on va soigner l'ensemble du corps du malade.
On ne soigne pas que la maladie, on soigne le malade.
On soigne le malade dans son intégralité, le corps, l'esprit. Le corps, l'angoisse. Le corps, l'affect.
C'est une prise en compte de toutes les dimensions de la personne.
Tout à fait. Et c'est là la grande richesse du palliatif. C'est la prise en compte de toute la personne. On n'abandonne pas la personne. On est là au quotidien, à ses côtés.
Mais alors, dans cet ensemble, c'est quoi votre place à vous en tant qu'association ?
Alors, cette association a été créée, donc, vous l'avez très bien dit, madame, il y a 34 ans. Et l'association forme des bénévoles à l'écoute. Ce sont des hommes et des femmes, comme vous, hein, d'horizons complètement différents, d'âges différents aussi. Il y a des jeunes, des moins jeunes et des encore moins jeunes. Et qui décident de donner un temps de leur vie à l'accompagnement des personnes en fin de vie. Souvent, suite d'ailleurs à une expérience. Souvent. Ces personnes sont recrutées après des entretiens, pour savoir quelles sont les raisons qui les emmènent à cet engagement. Il faut quand même être assez solide hein, dans la tête pour faire ce type d'engagement, de suivre cet engagement. Et ensuite, il y a, si elles sont acceptées, il y a un enseignement, enfin une formation qui dure de novembre à juin inclus, à raison d'un samedi par mois, et des envois sur le terrain accompagnés de bénévoles plus expérimentés. Donc, ces bénévoles sont formés à l'écoute de celui qui parle, à la manière dont on peut se permettre d'interroger, à l'écoute du silence, parce que nous accompagnons aussi beaucoup au silence, et également à la relation avec les soignants, parce que nous vivons au rythme des soignants quand nous sommes dans leur service.
Voilà, donc on ne va pas prolonger sur l'association elle-même, même si nous pourrons y revenir tout à l'heure par rapport à la place avec la famille et le patient. Je vous propose pour le moment une petite pause de musique classique dans mon émission. donc nous allons, comme nous sommes aussi dans le lien avec la mort, nous allons écouter Jean Ferrat, qui nous dit « Tu aurais pu encore vivre un peu ». Et c'est notre désir que la personne vive et vive bien jusqu'à la fin.
Tout à fait.
Donc nous l'écoutons, puis nous revenons juste après ensemble pour continuer notre conversation passionnante.
Bien volontiers.
Tu aurais pu vivre encore un peu pour notre bonheur, pour notre lumière, avec ton sourire, avec tes yeux clairs, ton esprit ouvert, ton air généreux. Tu aurais pu vivre encore un peu, mon fidèle ami, mon copain, mon frère. Au lieu de partir tout seul en croisière et de nous laisser comme chien galeux, tu aurais pu vivre encore un peu. T'aurais pu rêver encore un peu, te laisser bercer près de la rivière, par le chant de l'eau courant sur les pierres, quand des quatre fers l'été faisait feu. T'aurais pu rêver encore un peu, sous mon châtaignier à l'ombre légère, laisser doucement le temps se défaire et la nuit tomber sur la vallée bleue. T'aurais pu rêver encore un peu. Tu aurais pu jouer encore un peu, au lieu de lâcher tes boules, peaux chères. Aujourd'hui sans toi, comment va-t-on faire? Dans notre triplette, on n'est plus que deux. Tu aurais pu jouer encore un peu, ne pas t'en aller sans qu'on ait pu faire. Assez rigolo, mordre la poussière avec un enjeu du tonnerre de Dieu. Tu aurais pu jouer encore un peu. On aurait pu rire encore un peu avec les amis des soirées entières sur notre terrasse aux roses trémières, parfumées d'amour, d'histoire et de jeu. On aurait pu rire encore un peu, et dans la beauté des choses éphémères, caresser nos femmes, élever nos verres, sans s'apercevoir qu'on était heureux. On aurait pu rire encore un peu. Tu aurais pu vivre encore un peu, ne pas m'imposer d'écrire ces vers, toi qui savais bien, mon ami si cher, à quel point souvent je suis paresseux. Tu aurais pu vivre encore un peu.
Vous êtes sur le 103.2, vous nous écoutez en DAB+, ou peut-être vous écoutez nos podcasts sur radioallianceplus.fr. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie toujours de notre fidèle Jean-Paul Sauzède, que je vous rappelle est thérapeute. Et puis aujourd'hui, Hélène Deron qui est avec nous, qui est la présidente d'honneur de Être là ASP30. Qu'elle a mise en place en 1992 et qui dure et qui est très utile, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, en nous disant un peu comment sont formés les bénévoles et ce qu'ils font. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, si le temps le permet, de notre émission. Peut-être nous voudrions savoir, donc vous nous avez parlé des maladies, souvent c'est le cancer malheureusement, mais est-ce qu'il y a d'autres maladies qui nécessitent, à partir d'un certain moment, il y a une nécessité d'arrêter les soins? Donc, que quelle que soit, je dirais, quelle que soit la maladie du coup ou...
Oui. Toute maladie entraîne des soins et à un moment donné, les soins ne sont plus utiles pour toute maladie. Alors, en gériatrie où nous accompagnons beaucoup à Serre-Cavalier, c'est une grande unité du CHU de Nîmes, il y a des personnes âgées, mais dont la maladie est, j'allais dire, seulement, entre guillemets, l'âge, avec un petit peu une pathologie de personnes âgées. Et là, il n'y a pas... à proprement parler de traitement, hein, si ce n'est pour l'attention, l'équilibre, enfin ça sont les soignants qui... Mais enfin, il n'y a pas forcément un cancer. Voilà, non, pas du tout, c'est simplement l'âge, la pathologie de l'âge. Et là, les bénévoles sont très sollicités parce que dans notre contexte actuel, où les familles sont éclatées, où les parents travaillent, il y a pas beaucoup de place pour la maman âgée ou la grand-mère âgée pour l'accueillir à la maison. Donc, il y a énormément de monde, enfin de personnes âgées dans ces services-là. Donc, les bénévoles sont là pour remplacer peut-être ce que la société, enfin ce que la cellule familiale ne peut pas momentanément donner. Donc, les bénévoles sont là et offrent leur écoute et voire créent des liens.
Oui. Comme les visiteurs d'aumônerie, etc.
Tout à fait. Mais nous, on accompagne sans étiquette d'aumônerie. Hein.
Oui, voilà.
C'est la grande différence.
L'aumônerie protestante, etc., avec les pasteurs aumôniers, par exemple. Cas que vous dites, justement, donc là, il n'y a pas de soins palliatifs en tant que tels.
Alors, il peut y en avoir, bien sûr, il peut y avoir des soins palliatifs à Serre-Cavalier, bien entendu. Mais, si vous voulez, on peut mourir aussi tout simplement de vieillesse. Et dans les dernières années ou derniers mois, eh bien, on a besoin d'un réconfort. Parce que voilà, là j'accompagne une dame que... c'est intéressant aussi, comme remarque, je crois, c'est que le soin palliatif ne veut pas dire automatiquement la mort.
Voilà, non, c'était la question suivante que j'allais vous poser.
Voilà. Alors, je réponds par anticipation, pardonnez-moi. Actuellement, j'accompagne une dame, on nous a confiée, et à domicile, parce que les soins palliatifs existent également sur le domicile, hein, les bénévoles y vont, et puis il y a des équipes de soins palliatifs médicales sur le domicile. Eh bien, cette personne, je l'accompagne depuis 9 ans. Elle a une maladie, elle a une maladie cousine germaine de la maladie de Charcot, si vous voulez. Et puis voilà, j'ai accompagné pendant des années chez elle, et maintenant, maintenant elle est hospitalisée parce qu'elle ne peut plus vivre seule, puisqu'elle ne peut plus marcher, etc. Mmh. Elle peut encore vivre pendant quelques années, hein, mais elle est en soins palliatifs.
D'accord.
Voilà.
Très bien.
Donc voilà, c'est une autre approche, si vous voulez, une autre prise en charge de la maladie.
Et les soins palliatifs ne peuvent pas se faire à domicile?
Si.
Ou ils se font autant à l'hôpital qu'à domicile?
Oui, alors, à domicile, il faut... Enfin, il y a des équipes mobiles de soins palliatifs. Mm. Des équipes mobiles de soins palliatifs où vous avez le médecin, l'infirmière et les aides-soignantes. Hein, qui passent trois fois par jour chez le malade pour lui apporter les soins nécessaires. Équipe mobile de soins palliatifs. Et nous, les bénévoles de l'association, nous sommes appelés par cette équipe mobile pour accompagner et surtout pour essayer de donner à l'aidant, c'est-à-dire à l'épouse, la fille, enfin à l'aidant, la possibilité de s'échapper. De prendre un peu d'oxygène pendant 2 heures. Voilà, on reste. Vous pouvez partir, madame. Je suis là. Voilà. Et il y a évidemment des crains qui se lient. Donc, c'est complémentaire, si vous voulez, les soins palliatifs à domicile. C'est également tout autant pour le patient que pour l'aidant.
Voilà. Donc, c'est le lien avec la famille. Je crois que... je vois que vous levez le doigt, Jean-Paul Sauzède, vous avez l'autorisation. Moi, je pensais à la question de la famille, mais il y a peut-être une autre question que vous vouliez poser avant,
oui,
Jean-Paul.
J'avais une autre question qui était... J'aime bien le titre de votre association qui est « Être là ».
Oui.
Et je me dis, tiens, c'est quoi pour vous, être là dans les soins palliatifs? Parce que ce n'est pas simple d'être là.
Mais vraiment...
L'expression est simple, mais surtout, oui, ce n'est pas simple d'être là avec des mourants, avec des gens qui sont parfois en fin de vie, qui n'ont plus de moyens de communication.
Oui, c'est très riche. Ouais. C'est pas simple peut-être, mais c'est très très riche. Mmh. Parce que là, nous sommes mais vraiment au cœur de l'humain. Au cœur de l'humain. Alors... être là, c'est simplement être assis à la hauteur du visage de celui qui ne va pas bien. On ne se met pas jamais au pied du lit, jamais debout. Enfin, on a nous sommes assis à la hauteur de ce visage pour que les regards puissent se croiser, pour qu'on puisse aussi et entendre ce qui nous est dit. Être là, c'est être dans l'écoute de l'autre, l'écoute totale de l'autre. C'est-à-dire que pendant cette heure, ce quart d'heure, ou cette heure et demie, enfin, peu importe. Nous essayons, nous, les bénévoles, de faire le vide pour être complètement ouvert ou ouverte à l'autre. Hein? Être là, ça veut dire aussi entendre la parole de l'autre et pouvoir l'entraîner dans un raisonnement plus en profondeur, sans aucun jugement de ce qui nous est raconté, et dans le secret absolu médical, c'est-à-dire que nous sommes tenus comme le corps médical au secret.
Donc vous êtes dans la confidentialité.
Totale, sachant que obligatoirement nous avons un groupe de parole une fois par mois avec une psychologue, parce qu'on peut vivre des choses difficiles, on vit souvent des choses très riches que nous avons envie de partager entre nous.
C'est des temps de supervision pour les, les bénévoles.
Tout à fait, indispensable.
Alors, j'ai une dernière question, parce que l'heure, le temps file. Donc, c'était un peu l'adéquation entre, pour votre association, entre le médecin, les médecins, la relation au médecin, la relation à la famille, la relation à la personne. Comment ça se passe? Comment ça se joue, tout ça, je dirais?
Oui, bien c'est un équilibre, c'est certain, un équilibre humain aussi. Alors le médecin et surtout son personnel soignant, on voit relativement peu les médecins, mais on voit beaucoup plus les infirmières, les aides-soignantes. Ça se passe à partir du moment... Nous avons des conventions qui sont signées avec la structure de soins en question, et donc nous sommes appelés en fonction des demandes. Hein, et nous sommes plus spécialement pour tel ou tel ou tel service. Bien. Nous accompagnons aussi des Alzheimer, hein, des gens qui sont touchés par sa maladie d'Alzheimer. Donc, ça se passe bien, ça se passe très bien, en harmonie avec le personnel soignant. Quand j'arrive, on me dit, ben voilà, aujourd'hui, nous, j'ai oublié de dire une chose, c'est que nous engageons pour 4 heures par semaine d'accompagnement.
Chaque personne
s'engage.
Vous êtes combien, si ce n'est pas indiscret?
Pas du tout.
À peu près
une soixantaine de personnes. D'accord. Sur l'ensemble du département. Ce qui est peu, ce qui est bien, qui Et on peut toujours recruter. Hein. Enfin, je veux dire, la porte est toujours ouverte pour ceux qui veulent.
Si on veut, alors, si on veut recruter, on fait sur.
Voilà, vous avez.
Être là.
Voilà. Voilà, vous avez.
L'ASP.
Oui, l'ASP. Du Gard. Voilà, et si ça sort, ben vous avez, je crois, par derrière un numéro de téléphone.
Mais je le mettrai dans le podcast.
Voilà.
Aussi,
bien. Ensuite, avec les familles. Alors ça, les familles, c'est extrêmement important. Voilà. Extrêmement important parce que le malade, le patient, on lui souhaite d'être accompagné par sa famille. Mais parfois, la famille a besoin autant d'écoute que le patient. Et donc, nous sommes là à la croisée de l'humain, à nouveau, de l'histoire de cette famille, des angoisses de cette famille, et nous essayons, nous sommes simplement une oreille qui écoute. Hein. On n'est pas là pour du tout donner des conseils. Au nom de quoi on donnerait un conseil? Mais c'est pour les entraîner à réfléchir. Par exemple, je donnerai simplement un exemple de ce type de femme, je donne un exemple très 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 aimante, qui ne quitte pas son mari. Qui ne le laisse jamais seule. Parce que pour elle, eh bien, elle est la personne qui doit être à ses côtés. Et elle s'oublie elle-même. Et alors on lui dit très doucement, très gentiment, attention, il y a vous aussi. Vous aussi, vous avez besoin d'extérieur. Vous avez besoin d'oxygène. Vous avez besoin de vous ressourcer. Prenez le temps un peu hein, de lâcher prise, vous aussi, et de partir. Nous, voilà. Et là, c'est compliqué. On lui donne simplement quelques conseils pour qu'elle comprenne que, à double titre, ça lui fera du bien et ça fera du bien aussi à celui qui est souffrant.
Et en général, dans vos visites, vous êtes. La famille n'est peut-être pas là.
Ça dépend.
Ça dépend.
Ah, tout à fait.
Quand on va ensemble.
Voilà. Oui, alors on peut accompagner.
Ce n'est pas que seul avec le malade.
Non. Si nous arrivons à ce moment-là et qu'il y a l'épouse, une fille ou un fils, on demande l'autorisation si on peut rester. Ou si, vous savez, quand il y a un fils qui a fait des kilomètres, eh ben non, il veut voir son père. Bon, voilà, on part. Mais on revient, enfin voilà. Et on peut accompagner à 3, 4. Moi, il m'est arrivé d'accompagner, il y avait une famille complète, parce que l'infirmière me dit « allez-y ». Donc, on peut accompagner avec la famille. On peut attendre la famille dans le couloir parce qu'elle a quelque chose à nous dire. Et à la maison, on voit forcément la famille. On voit forcément les dents ou les dentes.
Très bien. Eh bien, notre émission s'achève avec des mots de bienveillance que nous avons entendus de votre part, Hélène de Ronne. C'est très important. Et nous avons compris l'essentiel des soins palliatifs. Après, chacun est dans son... Dans sa connaissance pratique.
Oui.
Quand il est où il ou elle est. Mais qui n'oublie jamais.
Oui.
Dans
cette épreuve.
Dans sa famille.
Oui, c'est une grosse épreuve, hein, une grosse épreuve que la mort. Mais il faut bien savoir que ça fait partie intégrante de la vie.
Voilà.
Et qu'il faut essayer de l'accepter, de la faire sienne, mais qu'on n'est jamais seul si on veut ne jamais être seul.
Voilà.
Il y a des gens d'écoute.
Très bien. Merci beaucoup de votre présence,
merci à vous,
de votre écoute et de vos paroles.
Merci.
Aujourd'hui, Hélène de Ronne,
merci
Jean-Paul
merci.
D'être là encore avec moi. Et pour le mois prochain, nous continuerons de réfléchir sur cette question de l'approche de la mort et puis de ces lois qui sont en train d'être mises en cours et qui seront importantes aussi à parler, à débattre. Nous verrons. Nous vous souhaitons un bon mois, messieurs et mesdames les auditeurs et auditrices. À bientôt.
La mort.